Je disais que ce cycle d'anthropologie, j'étais content parce que bah, ce sera toujours fait avec des hommes et des femmes, et puis des membres consacrés de Notre-Dame de Vie, où nous retrouvons les trois branches. Donc ça, c'est aussi une grande joie. Mais il faut mettre des noms sur les voies. Alors, aujourd'hui, c'est Marine de la Tour et le père Gilles Garcia qui vous parle. Et puis, il y a aussi Armel Hirschauer et Eddie Calassens, voilà, qui interviendront, qui participeront. Alors, la prochaine fois, pour l'être historique, l'homme dans une histoire et dans l'histoire, ce sera Armel et moi. Et puis, au second semestre, alors c'est la crème de la crème, donc il y aura Eddie et Armel pour le nomade et enraciné. Et puis alors, le feu d'artifice final, hein. On a gardé le meilleur pour la fin, comme d'habitude. Donc, il y aura Eddie et Marine, voilà, sur la parole, le don et la liberté. Voilà. Merci. Alors, on reprend.
Voilà. Donc, ce qu'on a vu, cette question de justement, d'un être qui est spirituel jusque dans sa chair, charnel jusque dans son esprit, c'est vrai dès le début, dès le tout début, d'une certaine manière, de la vie. Et là aussi, encore un détour qui n'est pas un détour, en fait. Finalement, si on regarde ce qui se vit dans les premiers mois de la vie, et même dans la vie, déjà dans la vie intra-utérine, et puis au moment de la naissance, et lors des premiers jours et semaines de la vie venue au monde d'un enfant, là, ce qui se joue, c'est avant tout quelque chose qui se joue dans son corps. On va prendre soin de lui. Dans sa vie intra-utérine, c'est une vie de sensation qu'il a. Sa conscience, son début de conscience, se confond presque avec le flot de sensations qu'il éprouve, qui sont des sensations qui ne sont pas réfléchies du tout. Des sensations qui prennent tout son être. Et en fait, cette vie intense, non réfléchie, apparemment totalement charnelle, c'est déjà la vie d'un être spirituel, d'un être d'esprit. Et cette vie-là, nous le savons, à la fois la réflexion philosophique, mais aussi la recherche psychologique, en particulier dans la deuxième moitié du XXe siècle, a montré que cette vie-là avait une signification très profonde pour la manière dont ce bébé qui va grandir va se situer dans l'existence. Alors, il y a une petite descente pour... voilà. Klimt. Il y a un professeur de philosophie qui est prêtre à Paris et qui est philosophe et qui est enseignant sûrement aux Bernardins, qui s'appelle Thierry Aval, qui a écrit un très beau livre qui s'appelle « L'enfant maître de simplicité ». C'est une réflexion philosophique, à la fois phénoménologique et métaphysique, sur l'enfance, qui est inspirée en particulier, mais pas seulement, d'un philosophe allemand qui s'appelle Gustav Sievert, mais qui s'est nourri aussi beaucoup d'études de psychologues de l'enfance et de pédagogues. Et alors, vous en avez de longs extraits sur votre feuille, rassurez-vous, on ne va pas tout lire ensemble. D'abord, et c'est un chemin qu'il faut faire, parce que nous, on a tendance à voir plutôt l'esprit comme des actes composés, des facultés spécifiques, et vous allez voir que cette lecture nous transforme un petit peu notre regard. D'abord, il montre que dès le premier instant de l'existence, une existence qui est inconnue de tous, dès le premier instant de cette existence, il y a nécessairement l'existence d'un être unique, cet être-là, qui va être le sujet, le fondement de tous les développements et de tous les actes ultérieurs. Et ça, c'est ce que la philosophie appelle une personne. Un être qui subsiste en lui-même et dont la nature qui va se déployer, cette nature est rationnelle et celle d'un être d'esprit. Et d'ailleurs, si on nous raconte des événements qui se sont passés au moment où on était tout petit, peut-être comme ça, on sait très bien que ce qu'on nous raconte, c'est des choses, c'est notre vie qu'on nous raconte, c'est notre histoire qu'on nous raconte. Mais qu'il y a une continuité qu'on ne peut pas, il n'y a pas de point de discontinuité. Donc c'est forcément nous, c'était nous. Donc nous avons été nous dès le premier instant de notre existence, d'une certaine manière. Et nous avons été nous, un être qui était déjà. Parfois, on a tendance à dire que, on pense que c'est le corps qui contient l'âme. Alors l'âme, on la voit là ou là, suivant les gens, ou Descartes, il le voyait par là, je crois. En fait, puisque c'est un être humain, une personne qui va se déployer, on pourrait presque dire que c'est l'âme qui contient le corps. C'est cette âme-là qui va présider à tous les déploiements du corps, unifié, en tant que, parce que ce corps-là, c'est celui de tel être, de cet être-là. Voilà. Et du coup, Thierry Aval arrive à dire que finalement, dans les quelques cellules de l'œuf fécondé, et puis dans l'embryon, dans le fœtus, il y a cet esprit se précède lui-même. Et déjà là, il y a une présence substantielle, l'âme, qui est, il dit, indérivable de notre paquet de chair et d'os, qui est indivis avec ce corps, mais qui est là. Et donc, c'est un être qui est, au départ, absolument sans conscience d'être, mais qui ne peut accéder petit à petit à la conscience de soi, à l'ouverture au monde, que parce que, dès le début, c'est le mystère d'une personne qui advient à elle-même. Voilà. Il nous dit à la fin du premier extrait, mais on va y revenir, à la fin du deuxième paragraphe, que dans le silence, un esprit est donné à lui-même au cœur de la matière, au fil du développement du petit enfant. Et cette présence immanente, c'est-à-dire qui est cette présence immanente de l'esprit, l'esprit enveloppe, on pourrait dire, le corps, et pas autre chose que le corps, là, à ce moment-là, se manifeste dans la réceptivité de la chair de l'enfant. L'enfant, il est une chair absolument réceptive à ce moment-là. Et les expériences qu'il fait vont constituer, on pourrait dire, sa mémoire sans fond, le fond sans fond de sa mémoire, de son être. On peut regarder le deuxième paragraphe ensemble. Le vocabulaire est compliqué, donc je ne vais pas exactement lire, mais au moins... dans l'infiniment petit, c'est la ligne 3 du deuxième paragraphe, dans l'infiniment petit, ce nous, l'insondable. Ce qui se joue là échappe au regard qui serait usé dans la pratique des manipulations. Ce qui se joue échappe à celui qui considère cet amas de cellules comme purement et simplement disponible. Il faut un questionnement métaphysique pour interroger l'indigence, la faiblesse de ce qui apparaît, et y lire la merveille. C'est page 3. Page 3, la ligne 10 à peu près. Pour lire dans cette réalité la merveille de la parution de l'esprit. Mais il nous dit que, et ça c'est très important je pense pour les débats actuels, reconnaître dans le tout petit enfant le mystère d'une conscience qui advient à elle-même, le mystère d'une personne, d'un être d'esprit qui est en train de mystérieusement se déployer, reconnaître dans ce développement de l'enfant la manifestation de quelque chose qui est de l'ordre de l'âme, ça, c'est quelque chose qui est en fait une forme de fidélité à ce que nous sommes, nous. Et ça, c'est très beau ce qu'il dit. Être fidèle à l'être d'esprit qu'on est, c'est chercher à reconnaître jusqu'à la limite l'irréductibilité de l'être de l'autre. On ne peut pas réduire l'autre à de la pure matière, à de l'animalité, à autre chose qu'à être une personne. même quand celui-ci ne nous dit encore apparemment rien de lui-même. On pourrait même mettre aussi, même quand celui-ci ne nous dit plus apparemment rien de lui-même. Donc reconnaître dans la personne qui ne peut plus rien exprimer, qui ne manifeste plus rien de la vie de l'esprit extérieurement, une personne et un être d'esprit, c'est une certaine manière être fidèle à notre propre humanité. C'est être fidèle au fait que nous, nous sommes un être d'esprit. Et que du coup, toute vie humaine est aussi assumée par une vie de l'âme, une vie de l'esprit. Et c'est pareil dans les commencements, c'est pareil dans... voilà. Jusqu'à l'extrême de l'indigence, me dit-il. En fait, c'est une question de fidélité à ce que nous sommes. Ce n'est pas une question d'interprétation, de critères sur ce que manifeste la personne. Cette quête, ce questionnement métaphysique sur l'être, qui est, quelle est la réalité en face de moi, qui est-elle ? Cette quête ouvre un chemin vers l'accueil généreux et gratuit de celui qui se révèle progressivement être présence, être un être avec une personnalité qui va se développer. Dans le silence, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ce regard contemplatif, ce regard métaphysique, mais qui est pas du tout nécessairement un regard de foi, qui est un regard qui est ouvert à la manifestation de l'être. Dans le silence, ce regard fait découvrir qu'un esprit, justement, est donné à lui-même au cœur de la matière. Et là ensuite, enfin, il va lire ce qui se passe dans le développement de l'enfant. Comme les études scientifiques le montrent, je commence à la deuxième ligne du paragraphe suivant. Alors, la sensibilité du fœtus fonctionne dès la septième semaine. Je n'y connais rien, donc je fais confiance à ce qu'il dit. Voilà. Je ne sais pas si c'est vrai, il y a des gens qui connaissent beaucoup mieux que moi dans la salle. Dès lors, il est, alors pas les sens développés, l'ouïe, tout ça, pas du tout, mais une forme de réactivité du corps. Dès lors, il est certain que celui-ci commence à réagir à la vie, et ça c'est important, et que dans les différentes sphères, encore non différenciées de ce qui sera sa mémoire, les phénomènes se sédimentent. Ce qu'il vit, ce qu'il perçoit, ce qu'il ressent, se sédimente pour constituer le fond sans fond de sa conscience. Il y a là une forme de mémoire immémorielle à laquelle le travail de la mémoire ne peut pas revenir, mais qui est une forme de fond de notre être, un fond sans fond, qui constituera les profondeurs inconscientes de la conscience et qui va contribuer à façonner les profondeurs du jeu libre, de la personne libre. Donc il y a une vie, un flot de sensations, et ce flot de sensations, il est déjà, nous dit-il, une forme de pré-expérience, une forme de première expérience de l'amour. La chaleur du sein maternel, c'est une expérience fondamentale pour faire une expérience de l'amour. Si on tourne à la page 4. Nous dit que donc l'être est réceptif, et cet être de l'enfant, non réfléchi, mais cette réceptivité va s'ouvrir, s'élargir, parce qu'il est, en sécurité, il est protégé, il vit comme ça. Et cette sensibilité, les sensations, sont reçues dans une grande simplicité et pureté, c'est tout l'être qui ressent. Parce que, évidemment, les sensations ne sont ni recouvertes, ni atténuées, par des idées, par des anticipations. Les sensations imprègnent et envahissent toute la conscience du petit bébé, enfin du fœtus, de telle sorte qu'on peut estimer que les premières perceptions sensibles ont une résonance profonde dans la personne, jusque dans sa sphère la plus intime. C'est tout l'être, il est complètement vulnérable, mais il est tout entier dans ce qu'il ressent et dans ce qui est vécu, dans une indistinction entre la chair et l'esprit, là. Et dans cette unité physique, psychique et spirituelle, avec sa mère, autant qu'avec lui-même, L'enfant reçoit, par la grâce de l'amour, la force de vivre sa vie et d'être ouvert. Plus il vit un profond bonheur, qui est sensible, hein, qui est du plaisir de sensation, d'une joie de sensation, plus son individualité se constitue déjà dans une paix heureuse, qui est un fondement pour la vie intérieure future. L'intériorité, nous dit-il, n'attend pas l'âge de raison pour se constituer. Ce n'est pas quand on commence à savoir penser et réfléchir qu'on commence à avoir une intériorité. Mais finalement, dès le début, il y a une forme de pré-intériorité dans la vie de l'enfant à naître, comme, nous dit-il, don de la nature et présence immanente, absolument accrochée à ce qui se vit dans la chair de l'esprit. Voilà. Donc à la fois, c'est un flux sensoriel, mais en même temps déjà, parce que c'est un être humain qui est en devenir, qui peut être déjà une pré-expérience, une expérience originaire de l'amour. Du coup, ça nous montre que dès les commencements, l'enfant a l'affectivité d'un être d'esprit. Il n'a pas une vie affective et puis ensuite arrivera la vie de l'esprit. Puisque ce qui se joue dans la vie affective, dans la vie sensitive, dans les sensations, c'est le fondement de la vie de l'esprit qui va se déployer. Donc c'est déjà l'enfant, dès le début de sa vie sensible, a l'affectivité d'un être d'esprit. Alors l'enfant peut vivre cette expérience de plénitude, mais il peut vivre aussi l'angoisse. Parce que justement, quand au fil des mois, il est de plus en plus sensible à ce que ressent sa mère, puisque les sensations, on sait bien qu'elles s'expriment toujours dans notre corps, donc dans le corps de la mère, dans les bruits qu'il entend. Voilà. Et du coup, il est complètement vulnérable et exposé. Il y a beaucoup de psychologues ou de philosophes qui ont parlé de l'angoisse de l'enfant dans le sein de sa mère, cette angoisse qui le prend tout entier. Nous, quand on a peur, on a notre raison qui permet d'atténuer l'angoisse, d'avoir des clés. Mais le petit enfant, dans une situation de danger, d'angoisse, de tension qu'il perçoit à travers sa mère, il n'a aucune clé. Il est complètement exposé. Et il nous dit finalement que tout cela va cette expérience, peut-être d'angoisse, peut-être, mais cette expérience qui est fondamentalement aussi souvent une expérience d'amour, nous dit que finalement, là, ce sont les premières raisons d'être, les premières justifications de l'existence qui ne seront pas du tout intellectuelles, qui seront beaucoup plus profondes et beaucoup plus solides que ce qu'on justifie intellectuellement. Il est impossible d'en mesurer la profondeur. Voilà. Il nous dit aussi que l'enfant... là, il a déjà quelques mois dans le ventre de sa mère. D'abord, il perçoit la présence de son père par la voix de son père qui lui arrive, par le toucher de son père sur le ventre de sa mère, mais aussi par la manière dont la présence du père peut apaiser la mère, donc indirectement. Il paraît que les bruits qui stressent le plus les enfants dans le sein de leur mère, c'est quand les parents se disputent. J'ai lu. Voilà. Et regardez ce qui est écrit page 53 là, dans le deuxième paragraphe, enfin c'est page 5, il y a un marqué à un endroit page 53 et puis après il y a un paragraphe qui suit. Oui. Un état structurel de conflit dans le couple, des incompréhensions de la famille, une situation sociale trop précaire fragilise l'enfant. Pas directement, mais parce qu'ils ébranlent le cœur de la mère. Et, c'est ce qu'on disait, cela fait jaillir en lui des peurs d'autant plus incommensurables qu'il ne peut de lui-même en prendre distance. C'est la raison qui nous permet de prendre de la distance. Et lui, il n'en a pas l'usage, là. Il n'a aucune distance avec ce qui lui arrive. Donc, il le reçoit à plein. Ce qui s'apparente au non-amour est perçu avec une lucidité inouïe comme une menace mortelle. Or, l'enfant à naître ne peut se murer en soi, il n'a aucune défense, son cœur est à nu. À ce stade, dans le silence de la nuit, il peut être un prophète crucifié, comme en témoignent les pathologies psychiques issues de la vie prénatale. Par exemple, au moment des souvenirs des attentats de Nice, et alors l'hôpital de Nice a eu un peu plus d'une dizaine, je crois, d'enfants, a eu besoin de suivre en psychiatrie et en psychothérapie des enfants qui avaient vécu les attentats de Nice dans le sein de leur mère, mais qui avaient ressenti un profond traumatisme et qui avaient besoin d'être accompagnés. Comme quoi, hein. Voilà. Dans le sein de la mère, oui. Ce nous, des réalités insondables qui vont orienter l'herméneutique, c'est-à-dire l'interprétation existentielle de l'enfant comme être au monde. Voilà. Peut-être qu'en lisant ça, on pense aussi... Moi, j'ai pensé à Jean-Baptiste, le petit Jean-Baptiste qui a été prophète dans le sein de sa mère, qui a tressailli de tout son être, parce qu'il n'y a pas de... Les réactions sont... Voilà. À la présence du Verbe de Dieu dans le sein de Marie.
Mais combien d'enfants qui ont été portés par des mères, qui ont été violés, combien d'enfants peuvent supporter l'angoisse de leur mère? Elle a été violée, donc pour elle, cet enfant qui est en elle, est peut-être... elle le rejette intellectuellement, mais l'enfant subit l'angoisse. Donc il naît avec tout ça en lui-même.
Avec tout ça en lui-même.
Et celui dont la mère a bu pendant toute sa grossesse. J'ai un exemple personnel.
Et du coup, ça montre l'importance pour la mère et pour l'enfant de tout le... Parfois, il y a tout un travail qui est fait pour arriver à consentir au fait d'attendre cet enfant-là. Combien c'est important pour l'enfant qui va naître, que ce travail puisse être fait par la mère. Voilà. Après, on est presque déboussolé quand on entend ça. Et puis, quand on se dit que peut-être qu'on va autoriser la GPA, et que là, c'est terrible, parce que par rapport à ce que vit l'enfant. Voilà. En même temps, voilà, après, c'est terrible, et puis, en même temps, l'être humain a des capacités de résilience, de petit à petit, plus ou moins, mais effectivement, ça, c'est des choses qui sont profondes, et plus profondes que toute la réflexion, que la conscience qui affleure, et qui impacte notre rapport à l'existence, en fait. La manière dont on se tient dans l'existence, la sécurité qui est là, les raisons d'être, justement, qui sont évidentes et qui n'ont pas besoin d'être interrogées ou pas. Voilà. Et donc, c'est effectivement ça. Voilà. Alors, si on avait le temps, mais ce serait un autre... c'est très beau aussi de voir que ensuite, un peu plus tard, dans le livre, il regarde le développement de l'enfant qui est né, les premières années, mais là, pareil, il y en a dans le métier, dans la salle, de voir le déploiement des sens et de l'intelligence chez le petit enfant, de voir la croissance d'un enfant de 0 à 1 an ou à 2 ans, c'est splendide. Et quand on regarde, quand on prend le temps de contempler un tout petit peu ça et de s'en émerveiller, plus jamais on peut dire que finalement, un enfant et un chien, c'est à peu près la même chose. Parce que ça, c'est aussi un courant très fort dans la société de négation de ce qu'on appelle la différence anthropologique. Le fait que l'homme soit radicalement différent de l'animal. Et quand vous voyez un petit enfant qui vient de naître, et quand vous le voyez, mais déjà il sourit très très vite, quand vous le voyez évoluer, vous dites, il faut être aveugle en fait. Voilà. Voilà, ce regard vers l'enfant tout petit nous montre à nouveau qu'il n'y a rien dans l'homme qui serait simplement matériel ou animal, sans engager déjà ce qui est de l'ordre de la personne ou de l'esprit. Voilà. Alors, on va refermer le chapitre de l'enfance et regarder, retrouver ça sous un autre angle. Voilà, dernier angle. En voyant comment les réalités sociales, culturelles, interpersonnelles, qui sont des réalités de l'esprit, la culture, ce que nous avons fabriqué, le monde que l'homme a fabriqué, des manières de vivre, tout ça. Combien finalement tout ça, c'est toujours d'une certaine manière ancré dans notre vie biologique et charnelle, c'est pas déconnecté, tout en transcendant toujours l'ordre biologique et charnel. Pour le dire autrement, parfois on dit qu'il y a quelque chose d'animal en nous. Ben, c'est pas tout à fait vrai. On a des choses en commun avec les animaux, mais notre, on pourrait appeler, avec, mais il faut mettre des énormes guillemets, notre animalité, c'est pas l'animalité d'un animal, c'est un être humain. On a besoin de boire et de manger, et ça les animaux l'ont aussi, sauf que nous, on met le couvert, on fait la cuisine, et le repas devient même le lieu de la convivialité, de la relation, de la fête, et même un sacrement. Oui. Et même tout simple, notre aliment, nous n'allons pas chercher comme ça. Enfin, voilà. Voilà. Et c'est pareil pour tout ce qui est de l'ordre de la satisfaction des besoins biologiques. Voilà. Le biologique est assumé dans quelque chose qui est souvent supérieur, mais sans être nié. On mange vraiment quand on se retrouve pour un repas. On boit vraiment quand on trinque, quand on ouvre le champagne pour un grand événement. Voilà. Donc le biologique disparaît presque, mais sans disparaître vraiment. Donc devient invisible sans disparaître. Vous pourrez lire à ce sujet, il y a un texte d'un philosophe, alors on est page 6, d'un philosophe allemand qui est mort il y a, je sais pas, 2 ans, quelque chose comme ça, qui s'appelle Robert Spemann. Pour ceux qui sont intéressés par l'éthique et qui sont prêts à s'accrocher un peu, c'est un très beau livre qui est là. Tu veux trouver dans une bibliothèque parce qu'il n'est plus édité. Voilà. On ne va pas tout lire. Mais il explique ça et il donne un exemple qui, je suis désolée, c'est pas très joli, mais il dit... justement, si la finalité de l'acte de... Il prend l'exemple de l'acte de manger. Puis un peu plus tard, mais je n'ai pas recopié le texte, il parlera aussi de la sexualité. Mais par rapport à l'acte de manger, il dit la finalité, l'objectif d'ingérer de la nourriture pour que le corps prenne des nutriments, pour qu'on ait de l'énergie et qu'on puisse vivre, cette finalité élémentaire de l'ingestion de nourriture, elle est presque invisible dans les transpositions culturelles du repas. Le fait de faire un repas de famille pour Noël, le fait de célébrer quelque chose par le repas. Mais elle dit, si cette finalité, manger, devient invisible, c'est parce que nous ne l'évacuons pas. Nous ne faisons pas comme si nous étions désincarnés. Donc c'est une réalité personnelle, culturelle, spirituelle, relationnelle qui se vit, mais nous continuons à manger, et c'est pas du tout dégradant de manger. On n'est pas obligé de manger comme à la dérobée quand on est dans un repas. On mange et on n'a pas honte de manger. Sauf si on dévore tout le plat, là, on a un peu honte, mais... Voilà. Alors, l'exemple qui est un peu dégoûtant, je suis désolée. Voilà, les Romains. C'est précisément en tant que cette action élémentaire qui assure la conservation de soi de personnes libres, donc c'est pour continuer à vivre, que l'action de boire et de manger peut acquérir une fonction sociale fondamentale. C'est seulement la fonctionnalité multiple qui lui donne son sens humain. Lorsque les Romains de l'Antiquité tardive prolongeaient leurs banquets, on connaît les orgies chez Astérix, prolongeaient leurs banquets en allant, lorsqu'ils avaient assez mangé, vomir dans un vomitorium pour se remettre à manger, cette autonomisation de la fonction culturelle par rapport à la fonction naturelle. Donc là, on faisait un repas juste pour être ensemble, juste pour quelque chose, mais pas pour se nourrir, puisque... Voilà. Donc, cette autonomisation de la fonction culturelle par rapport à la fonction naturelle n'élevait pas l'action de manger à un niveau supérieur plus humain, mais la rabaissait. À la place de la nourriture, on trouvait la jouissance gratuite. Et ça, justement, c'est bizarre, hein, mais ça en devient bestial. Séparer l'acte de sa fonction biologique nous rend dégradés.
D'ailleurs, seul l'homme est capable de bestialité. Un animal n'est jamais bestial. Une fois qu'il a mangé, il a mangé. n'y a pas de cruauté chez lui. Il n'y a que l'homme qui peut déchoir.
Des fois, il tue pour tuer sa mentir.
Ouais, pour jouer.
Oui, mais c'est assez rare quand même.
Oh, certain quand même.
Mais un animal ne mangera jamais jusqu'à se faire vomir, par exemple. Alors que l'homme, oui. Le comportement sexuel de l'animal est assez régulé, en fait. Jamais un animal n'a fait de la pornographie, par exemple. Ne fera. Même si la mante tue son mari en la mante religieuse, c'est autre chose. Il n'y a que l'homme qui peut être bestial.
Ça nous montre finalement deux impasses. L'impasse du spiritualisme, qui est finalement le corps qui serait vu simplement comme la simple matière. Et puis l'esprit qui, lui, est désincarné. C'est ce dont Tertullien parlait à Marcion dans l'introduction. Et puis le naturalisme, c'est deux conceptions fausses. Le naturalisme qui est une position qui est assez répandue aujourd'hui, le spiritualisme aussi d'ailleurs. Le spiritualisme, c'est mon corps est de la matière que je peux modeler et ma vie réelle, elle est au niveau de l'esprit et de ma liberté. Et donc mon corps, je vais pouvoir le modeler, ça va être même une manifestation de ma liberté. Autre impasse, le naturalisme. Le naturalisme, c'est une interprétation un peu bizarre de la nature qui dit, mais tout ce qui se fait quelque part dans le monde est bon parce que ça se fait. Si ça se fait, c'est que d'une manière ou d'une autre, c'est naturel, puisque ça existe. Et parfois, on entend, voilà, même ce qui existe dans le règne animal devient une indication de ce qui est naturel. Entre guillemets, naturel équivaut ici à la facticité, être un fait. Voilà, donc tout ce qui se fait est bon et naturel parce que ça se fait. Et là, le problème, c'est que finalement, effectivement, dans notre corps, il y a des tendances qui sont bonnes et qui sont... Il y a des tendances dans la vie, il y a une tendance vers quelque chose, toujours. Vous plantez l'arbre, là, le marronnier, il n'est pas trop malade, celui-là. Quand on le plante, il tend vers la croissance. Et donc, qu'il ne puisse pas avoir d'eau, ça va être pour lui pas naturel. De grandir, ça va être pour lui naturel. De le couper, c'est pas naturel pour lui. Alors, ça ne veut pas dire que c'est pas un acte bon. Parce qu'on va l'assumer dans le fait de construire une charpente et tout ça, donc ça va devenir quelque chose de bon pour lui, bon tout court. Mais il y a une tendance, et aussi en nous. Et Spemann, on ne lit pas, vous lirez si ça vous intéresse, mais il dit, mais ces tendances-là, notre liberté, notre esprit, notre intelligence les reconnaît, nous les percevons. Par exemple, j'ai faim, j'ai besoin de manger, quand j'ai faim, c'est une manifestation d'une tendance de ce que je suis. Alors, comme je suis un être libre, cette tendance-là, d'abord, c'est ma raison qui la reconnaît. Et puis, je peux décider de manger ou de ne pas manger. Avoir faim, c'est en soi une raison suffisante pour manger si je n'ai pas d'autres raisons qui me disent de ne pas manger. Qui peut être, c'est pas l'heure, ou qui peut être, je ne sais pas quoi, plein de raisons. Ou tu es allergique à ça, donc non. Ou alors, voilà. Donc on a un besoin qui est reconnu par notre intelligence et on va poser un acte libre de reconnaître cette tendance qui est bonne et de la satisfaire si c'est le moment, si c'est bien, ou de faire autre chose sans nier la tendance en la prenant en compte, mais peut-être qu'il faudra faire autre chose. Et en préparant avec le père Gilles, on pensait au jeûne par exemple. Et le jeûne, en fait, c'est quelque chose de très beau parce que on prend conscience de notre faim, qui est le besoin qu'on a de se nourrir, et on va décider de stopper la satisfaction de ce besoin en vue d'autre chose. Parfois on dit, ouais, le jeûne, c'est, il vaut mieux jeûner de téléphone portable, ou il vaut mieux faire autre chose, ou tout ça. Peut-être, parce que si on veut... Si la question, c'est la liberté intérieure, justement. Mais peut-être qu'il y a aussi une signification particulière du jeûne, où c'est à l'intérieur de la faim, donc de cette tendance qui recherche la nourriture, que s'inscrit cet acte-là qui nous ouvre à une autre nourriture. Donc à quelque chose qui va nous nourrir, qui est la parole de Dieu, ou la présence de Dieu, ou le partage et le don de soi à l'autre. Et ça, de faire l'expérience par le jeûne que cela nous nourrit vraiment, de laisser une place, mais à l'intérieur de cette tendance-là, qui est une tendance de notre chair. Voilà. Et ça, le téléphone portable, ça ne remplace pas. Mais en fait, finalement, nos réalités culturelles, sociales, elles ont aussi toujours, d'une manière ou d'une autre, un ancrage charnel, quelque chose qui a à voir avec notre nature, même biologique. Quasiment toujours, faut réfléchir et chercher des exemples, mais évidemment, la famille, c'est une institution qui a aussi un substrat charnel. La filiation aussi. Alors, l'articulation entre le est très délicate sur la filiation. Si on a le temps à la fin, il y a Xavier Lacroix qui dit des choses très intéressantes par rapport à ça. Parce que la filiation n'est pas une réalité simplement biologique. On pourra le garder pour après. Oui, on le gardera pour l'histoire. Je finis juste ma phrase du coup, mais c'est pas une réalité biologique, mais c'est une réalité qui a un ancrage dans une réalité biologique et charnelle. Et donc, quand la filiation perd complètement l'analogie, la ressemblance, comme institution, quand elle perd l'analogie ou la ressemblance avec la filiation biologique, alors elle perd son sens aussi.
Voilà. C'est un teaser pour la prochaine séance.
Voilà. La bande-annonce.
La bande-annonce.
Voilà. Platon dit aussi que la société est née du fait que nous avons des besoins. Nous sommes des êtres de besoins et que on est beaucoup plus efficace quand on se met ensemble pour satisfaire nos besoins parce qu'on se partage les tâches. Si on devait tous faire des chaussures, cultiver les cerisiers et tout ça en même temps, soigner les malades et tout ça, on serait pas bon cultivateur ni bon cordonnier. Ni bon infirmier. Et en plus, on a un problème avec le temps parce que quand on doit cueillir les cerises, il faut faire ça toute la journée et on n'a plus le temps de faire des chaussures. Enfin, voilà. Donc, c'est beaucoup plus efficace quand on se partage les tâches. Pour lui, c'est ça le fondement de la société.
C'est pour ça que le philosophe est détesté parce qu'il parle de tout, mais il est bon à rien.
Voilà. Voilà. Pour conclure ce point-là, on peut lire... Merleau-Ponty, le page 7 en bas, et puis ça résume un peu, et il le dit de manière très intéressante. Merleau-Ponty, c'est un philosophe français du milieu du XXe siècle, assez connu. L'usage qu'un homme fera de son corps est transcendant à l'égard de ce corps comme être simplement biologique, toujours. Il est impossible de superposer chez l'homme une première couche de comportement que l'on appellerait naturel, et par-dessus, un monde culturel ou spirituel fabriqué. Tout est fabriqué et tout est naturel chez l'homme, comme on voudra dire, en ce sens qu'il n'est pas un mot, pas une conduite, qui ne doivent quelque chose, et souvent c'est invisible, qui n'est un lien avec l'être simplement biologique et qui, en même temps, ne se dérobe à la simplicité de la vie animale. Nous ne faisons rien comme les animaux, qui ne détourne de leur sens les conduites vitales par une sorte d'échappement et par un génie de l'équivoque qui pourrait servir à définir l'homme. Voilà. Donc le corps n'est jamais simplement un lieu de fait brut. C'est une réalité que nous découvrons, dont nous découvrons les tendances. Ces tendances nous indiquent un sens qui est assumé, repris par l'esprit. C'est le corps qui fait naître la parole, qui fait naître la culture, mais la culture l'assume et le transcende. Et je me disais, mais finalement, tous ceux qui accomplissent une tâche souvent humble de service du corps, que ce soit par leur métier ou parce que les circonstances de la vie les obligent, laver, soigner, donner patiemment à manger ou à boire, aider à se redresser dans son lit. Ce service réel et concret, quand il est entouré de respect et d'amour, on fait l'expérience que c'est le lieu chargé de sens d'une relation de personne à personne. Donc, répondre à un besoin physique de boire, de s'hydrater, de manger, avec beaucoup de patience et beaucoup de simplicité, de gestes qui semblent dérisoires, c'est le lieu magnifique d'une relation de personne à personne. Et je pense qu'on a tous plus ou moins fait l'expérience. Et inversement, hein, le respect et l'amour de la personne se manifestent aussi et d'abord dans l'attention aux besoins physiques de l'autre. Voilà.
Bon, vous avez des questions? On peut faire une pause, non? Non? Vous voulez qu'on continue? On continue? Eh bon, on continue. Marine, c'est à vous.
Est-ce qu'il y a des questions? Oui.
Dans beaucoup de formations, un outil qui est souvent présenté, c'est la pyramide des besoins de Maslow. Et du coup, est-ce qu'en fait, elle a une pertinence? Parce que en fait, être critiqué comme le fait un peu Merleau-Ponty en disant qu'il n'y a pas une première strate de besoins naturels, puis après, plus on montrait dans les besoins, on arriverait ensuite aux besoins de spiritualité, en haut de la pyramide. Et... Mm-hmm. Par exemple, c'est.
Oui.
C'est vraiment quelque chose qu'on dit souvent. On dit bah, d'abord, il faut d'abord satisfaire les besoins physiologiques, de sécurité, de stabilité. Une fois que ces besoins sont satisfaits, bah, après, on peut envisager de satisfaire les besoins. Il faut d'abord il y aurait un premier socle à mettre en place pour ensuite. Ouais. Alors, il y a quelque chose qui est juste. On voit qu'il y a quelque chose de juste dans le même temps. On voit que ça découpe
l'être
humain en secteurs.
Une sorte de dualisme, en fait.
En fait, c'est ce qui me vient comme ça, mais. Souvent dans ces, si on le prend comme quelque chose de descriptif, en disant l'homme a différents types de besoins, et justement il faut prendre en compte sa nature incarnée et pas sauter par-dessus les autres besoins. Si on le prend comme une indication pour l'agir, ça semble vraiment tenir la route et être utile et être un, voilà. Après si ça se présente comme étant une théorie sur l'homme, vraiment une anthropologie. Alors, il y a un problème parce que je peux très bien satisfaire un besoin spirituel très profond en donnant à manger. En donnant à manger. Voilà. Ou en mangeant. À la messe. Non, mais. Et du coup, en fait, voilà. Si c'est une aide-mémoire pour ne pas oublier, voilà. Oui. Et puis pour se rappeler qu'on a différents types de besoins, mais en fait, si quand c'est assumé dans une relation, certainement les besoins les plus profonds, on ne peut pas découper, quoi.
La conséquence en la partie de la
Alors que pourtant, c'est tellement important à cet âge-là parce que ça va s'inscrire dans des choses qui sont presque de l'ordre du réflexe, quoi, qui sont très difficiles.
Ce qui me vient à l'esprit, après, c'est une distinction qu'on va faire entre le corps-objet et la chair. Enfin, il y a une expérience, je crois, j'espère que c'était vrai. Vous savez, des enfants, je crois que c'était en Russie, des nouveau-nés. Qu'on nourrissait, qu'on alimentait, mais auquel on donnait aucun signe d'affection. Et ces enfants sont morts, en fait. Ouais, c'est ça, c'est des enfants. Donc on voit bien que ne satisfaire que les voilà découper comme ça, finalement c'est une sorte d'abstraction de l'être, enfin de l'être humain, et qui en fait c'est un dualisme. On voit bien que ça fonctionne pas. Et c'est bah, j'aurais pas le temps de le travailler, etc. Mais vous voyez, même la femme, par exemple, hein, la poitrine de la femme, etc., quand elle allait être l'enfant, il y a vraiment quelque chose d'autre qui passe, simplement que le fait de donner la nourriture, mais il y a le fait que la mère se donne. Et c'est déjà l'apprentissage d'un don de soi. Alors que l'homme, lui, il a une cuirasse, il a un bouclier, etc. Enfin, oui, c'est des textes que je pourrais vous faire. Mais oui, c'est très intéressant. Alors même s'il ne faut pas tout de suite rapporter. Et puis aussi, vous voyez, faisons l'expérience, par exemple, nous-mêmes, est-ce que nous accepterions, par exemple, de manger toujours tout seul voilà, du moment qu'on mange, ça n'a pas d'importance d'être réunis ensemble, vous voyez, dans notre communauté de Notre-Dame-de-Vie, ou en famille, ou avec des amis, et ça, on ira faire après. Mais oui, on ne perçoit jamais ça. Quand, souvent, regardez, faites l'expérience, quand on va manger, quand on a faim, je ne dirais pas immédiatement, mais c'est toujours avec qui on va partager notre repas. Et donc, on voit bien qu'on ne peut pas séparer d'une manière radicale les besoins biologiques et en même temps cet aspect qu'on fait, on est une personne humaine et donc ils se vivent toujours dans quelque chose de supérieur. Voilà. Ils sont déjà empreints de l'esprit.
Alors justement, le Père Gilles a fait la bonne transition. Effectivement, il y a quand même deux manières de regarder le corps qui sont toutes les deux légitimes et qui correspondent à cette ambiguïté, enfin une ambiguïté positive, mais le corps qui est à la fois matériel et puis en même temps qui est toujours le corps d'une personne. Alors, les philosophes l'appellent parfois, suivant les terminologies, corps-objet d'un côté et corps-sujet ou corps-vécu. C'est Gabriel Marcel qui parle du corps-objet, corps-sujet. En allemand, il y a deux mots, corps-objet, corps-sujet. Ça correspond un petit peu à la distinction en allemand entre Körper et Leib. Merci. Et donc ces deux manières de considérer le corps qui correspondent à la réalité de ce qu'est le corps, mais à des sens différents. Alors le corps tel qu'on va le décrire, dont on va faire l'anatomie, c'est un corps-objet. Objet, ça veut dire ce qui est posé devant, ce que je peux toucher, observer, étudier, ça c'est un corps-objet. Donc le corps-objet, il est totalement constitué, il est entier. Il a tout ce qu'il faut, quoi. Il est tout entier. Sauf que, est-ce que vous vous êtes déjà vu tout entier ? Vous avez déjà vu votre dos ? Si vous regardez votre dos dans un miroir, bah, vous ne voyez plus le devant. Voilà. Et même de Christine, je ne peux pas voir en même temps son dos et son visage. Je pense quand même qu'elle a un dos. J'y crois. Voilà. Mais... voilà. Et donc, en fait, il y a très peu de situations dans lesquelles le corps est simplement un corps-objet. La réalité du corps-objet ne se donne de manière naturelle que dans très peu de situations. Je peux faire du corps un corps-objet. Suivant la manière dont on traite un mannequin, dont on le regarde, son corps peut devenir un corps-objet. Dans la prostitution, le corps peut devenir, pour le client, un corps-objet. Il y a certaines situations dans lesquelles, quand le corps, vous savez, il y a des trafics. Par exemple, quand je considère le corps comme une réserve d'organes, qui sont en fait une réserve de fonds parce que je vais les vendre, ces organes. Il y a des histoires terribles, je pense que vous lisez ça dans le journal, de migrants qui sont conduits à l'hôpital, endormis, et hop, on leur a pris un rein, je ne sais pas quoi, pour le trafic au niveau international. C'est des scandales actuels qui sont énormes. Considérer le corps comme une réserve d'organes, ou le corps d'un bébé médicament, par exemple, qui serait ces espèces de... Voilà, c'est... Qui... Donc là, le corps est objectivé, mais c'est une dégradation. Mais de manière habituelle, le corps peut être un corps-objet, mais jamais seulement. Parce que le corps, c'est non plus le corps que je considère à distance, mais le corps vécu. Le corps que moi, je vis de l'intérieur, le corps que le Père Gilles vit de l'intérieur, que Tessie vit de l'intérieur, que chacun vit de l'intérieur.
Vous avez une expérience très simple. Écoutez votre voix. Oui. Sur un répondeur téléphonique ou sur un magnétophone, vous ne la reconnaissez pas.
Oui.
Et vous avez l'impression que c'est un étranger. Et bien, voyez, le corps vécu, c'est tout ce que nous ressentons, tout ce que nous vivons, tout ce que nous d'intérieur, c'est la manière corporelle dont nous vivons le monde, les relations. Elles sont uniques, en fait.
Et donc, mon corps, c'est en fait le centre de mon existence. C'est le lieu de ma conscience. Le corps est, dit Merleau-Ponty, toujours le même. Ah non, pardon. Ah, ah si, c'est bon. Le corps, c'est pour moi ce qui me permet d'agir, ce qui me permet de percevoir ce qui m'insère dans le monde, ici et maintenant. La réalité de mon corps, c'est ce qui me donne d'exister dans le monde, c'est-à-dire de percevoir le monde et de pouvoir interagir avec lui. Ceux qui ont vu le film Ghost, vous savez, il y a une scène où le personnage principal n'est pas tout à fait réel et il est dans une station de métro et il essaie de shooter dans une canette. Sauf que il y en a qui se souviennent, la canette, elle bouge pas évidemment, puisque son pied, il n'est pas réel. Donc, il n'interagit pas avec le monde. Et notre corps, c'est la puissance que le monde réagisse à nous et que nous soyons affectés par le monde et que nous affections le monde. Donc, on est réel et pas virtuel. On est réel et pas virtuel parce qu'on a un corps. Et on est à un moment du temps et de l'histoire du monde parce qu'on a un corps. Le théologien qui est à côté de moi me dit « Les anges, ils ne sont pas virtuels, mais ils n'ont pas de corps. » Je dis « Oui, mais ils ne sont pas à un moment du temps et de l'histoire. » Voilà. En tout cas, ils ne sont pas liés à un moment du temps et de l'histoire et ils n'interagissent pas de manière humaine avec vous.
Non, mais c'est vrai. Nous n'avons pas de relation, de dialogue avec un ange. Non. Nous ne le voyons pas. Nous ne pouvons pas partager un repas avec lui, tout simplement parce qu'il n'est pas incarné.
Voilà, donc le corps, ça c'est important. Le corps, ce n'est pas un intermédiaire entre moi et le monde. Ce n'est pas mon costume dans le monde. C'est mon être dans le monde. C'est mon existence dans le monde. Enfin, ce n'est pas un intermédiaire. C'est une médiation, on pourrait dire, mais pas un intermédiaire. Voilà, donc je perçois dans et par mon corps ma conscience du monde, la conscience de ce qui m'entoure, n'est pas du tout en surplomb par rapport à ma corporéité. Je perçois le monde tel que je le perçois par mes sens. La connaissance passe toujours par les sens. Et même nos idées les plus abstraites, nos concepts, prennent naissance dans notre expérience du monde qui est incarné. Donc c'est mon insertion dans la réalité.
Oui. J'ai un exemple très simple. Quand vous dites « Dieu est bon », c'est parce que vous avez goûté du chocolat. Ou que vous avez mangé un... Si vous aimez le chocolat, voilà. Mais disons, c'est toujours une expérience. Parce que vous avez fait une expérience de bonté, c'est parce qu'on a fait une expérience un jour peut-être très très simple, très minimale, qu'on peut dire un jour Dieu est bon. Alors qu'est-ce qu'on dit quand on dit Dieu est bon? On ne sait pas. On n'enclôt pas Dieu dans la bonté, mais c'est bien parce que c'est parti d'une expérience que nous avons vécue.
Ce qui est bon fait du bien, et que Dieu fait du bien.
Ça n'a rien à voir. Mais je me souviens de Gilbert qui disait « Comment pouvez-vous dire à quelqu'un « Dieu est amour, il est ton père » quand la personne à qui vous parlez s'est fait frapper par son père toute sa jeunesse et enfermé dans un placard.
En fait, on peut quand même, heureusement.
Alors, bien sûr, mais c'est même pas la voie la plus simple.
Non. Voilà. Donc le corps me fait habiter dans le monde, et le monde, c'est toujours un monde commun. Si je fuis mon corps, que je vis dans une réalité virtuelle, la réalité virtuelle, c'est une réalité dans laquelle je suis seule. C'est ma bulle. Le monde dans lequel mon corps m'insère, c'est un monde commun, réel, solide, dans lequel on se rencontre vraiment, on se frotte, on se heurte, on se... Voilà. Donc mon corps, d'une certaine manière, fait de moi un sujet, puisque le sujet, c'est le jeu qui perçoit, qui agit. Donc mon corps... En moi, mon corps est du côté du sujet, c'est ce que dit le corps sujet. Donc je vois des objets, je perçois des objets, j'agis sur des objets, et du coup mon corps il est du côté du sujet, même dans la phrase. C'est moi qui vois, mais je ne vois pas mon corps. Ou quand je le vois, ça devient, j'en fais un objet, mais je ne vois jamais, je ne me vois pas en train de voir. Vous voyez ? Donc le corps est du côté du sujet, d'une certaine manière. Alors, est-ce que cela veut dire que je suis mon corps? Et non. On ne peut pas réduire quelqu'un à son corps. Et si le regard de quelqu'un me réduit à mon corps, je me sens dégradée. Et donc, pourquoi? Parce que dès que je dis qu'il y a une identité parfaite entre le je J-E est le corps, je suis mon corps, ou la personne est son corps, alors je risque de considérer le corps comme objet, bizarrement. Ne voir dans quelqu'un que son corps, la réduire à son corps, c'est la dégrader. Ça veut dire que il faut dire et penser le rapport mystérieux entre la personne et le corps autrement que par un signe égal, par une identité stricte. Le problème, c'est que le langage bute à des difficultés pour dire de manière adéquate le rapport entre une personne et son corps. On le dit de manière toujours inadéquate. Sous le mode de l'être et sous le mode de l'avoir, ça ne marche pas. Alors, d'un côté, mon corps, c'est moi, puisque ce qui arrive à mon corps m'arrive à moi, j'en suis le sujet, c'est à moi que ça s'est imputé. Je ne dis jamais mon pied a mal, je dis j'ai mal au pied. Ouais. Et dans ce tract-là, Sylvia Nagasinski, elle cite le philosophe Whitehead, qui notait avec humour: personne ne dit « j'arrive et j'apporte mon corps avec moi ». Voilà. Donc mon corps, c'est moi, d'une certaine manière. Et pourtant, je ne peux dire que je ne suis que mon corps, puisque je ne suis bien plus, et que ma personne, mais j'assume les déterminations, les limites, les imperfections de mon corps, mais j'agis à travers lui. Réduire une personne à son corps, c'est la blesser profondément, avons-nous dit. Voilà. Regardez la page 8, le texte de Jean-Louis Chrétien. Je suis mon corps, mais mon corps n'est pas moi. Le montre la pudeur, à nouveau elle, qui naît de cette unité sans confusion ni séparation. Si la pudeur, en effet, n'atteste pas une séparation de l'âme et du corps, elle ne prouve pas plus leur absolue confusion. La suite est intéressante, il va nous montrer toute l'ambiguïté. C'est parce que je suis mon corps, d'une certaine manière, qu'un regard porté sur lui peut me troubler et me faire honte de moi-même, et pas de mon corps, comme d'une autre substance, m'atteindre en mon être même. Et c'est parce qu'il n'est pas moi que ce trouble est précisément honte, puisque ce regard saisit quelque chose de moi et me réduit à ça, et y assigne, sans esquive possible, mon être total, que pourtant je n'y reconnais pas. Le regard qui me fige dans la honte me rend pour lui-même panoptique, transparent, complètement saisi dans le regard. Alors, Jean-Louis Chrétien est poète, donc vous allez, il faut l'entendre comme de la musique. Il me prend à mon corps comme on prend aux mots, avec cet entêtement qui ne veut rien voir ni rien savoir d'autre que ce qu'il voit. Le regard qui me fige dans la honte fait de moi un corps objet. Du coup, je ne suis pas complètement mon corps, ou mon corps n'est pas complètement moi, donc le rapport au corps ne peut pas se dire de manière adéquate et complète, en tout cas, avec le verbe être, sous le mode de l'être. Mais il ne se dit pas non plus de manière complète et adéquate sous le mode de l'avoir, avec le verbe avoir. Je peux dire, et peut-être que justement, si vous éduquez des petits-enfants, vous leur dites « ton corps est à toi ». Et c'est juste. Je peux dire d'une certaine façon que mon corps est mien, voire que mon corps est à moi, au sens où il m'est propre et où autrui n'a pas un droit dessus. Dans ce sens-là, c'est vrai. Et il faut le dire. Autrui n'a pas de droit sur mon corps parce que mon corps est à moi, ou est mien. Je peux le dire aussi au sens d'une responsabilité. Pourquoi ? Parce que ce qui est mien, c'est ce qui m'est confié, ce dont je suis responsable, ce que je peux abîmer et ce dont je peux prendre soin. Vous voyez ? Donc dans ce sens-là, avoir est juste aussi. Donc, de ce qui est mien, je suis responsable. Je suis même responsable du rapport que j'ai à mon corps. Et en même temps, je ne peux pas dire que j'ai un corps ou que j'ai mon corps au même titre que j'ai toutes les autres choses que j'ai. Pourquoi ? Quand j'ai une voiture, je peux la vendre, je peux l'emmener à la casse, je peux la changer. Et pourtant, je ne peux pas disposer au sens juridique de mon corps, je ne peux pas le vendre, l'aliéner, comme je peux le faire avec une voiture ou une maison. En disposer totalement, je ne peux le faire qu'une fois. En disposer totalement, c'est mourir. Et je ne peux m'en détacher de mon corps que par une fiction qui ne tient pas l'épreuve du temps. Je ne peux pas laisser mon corps au placard. La même Sylvia Nagasinski décrit la stratégie de survie qui est adoptée par des femmes prostituées, qui consiste à se mettre à distance de leur sensibilité, de leur corps, pour surmonter leur répugnance de ce qu'on leur demande. Et donc, il y a une espèce de distance qui s'installe. C'est une stratégie psychologique de survie. Sauf que, évidemment, cette distance ne tient pas l'épreuve du temps, et le fait que mon corps ne soit pas quelque chose dont je puisse me mettre à distance me revient comme un boomerang. Voilà. Vous disiez aussi quand on...
Bon, c'est pas une réalité très, très réjouissante, mais j'ai lu des rapports, une femme, parfois, en train d'être violée, c'est un tel traumatisme, un tel choc qu'elle se déconnecte totalement de ce qu'elle ressent, de ce qu'elle vit. Et souvent, les femmes décrivent comme si elles se regardaient être violées, mais enfin, comme si ce n'était pas elles, en fait. Elles sont à l'extérieur, totalement, comme si elles étaient à l'extérieur. Donc, on voit bien qu'elles sont capables de prendre une distance, puisque c'est une distance tellement de sécurité, enfin, comment dire, de survie, qu'en fait, effectivement, elles ne sont pas là à ce moment-là. Donc, elle ne meurt pas d'une certaine manière, mais après, vous comprenez bien le traumatisme qui va perdurer. Et donc, cette espèce d'arrachement à soi pour ne pas mourir, en fait. C'est tellement le traumatisme est violent.
Et ça, quand il y a un accident grave, oui. Quand on vit des fois des moments difficiles, soi-même, par rapport à la proche, en fait, oui. Il y a bien un décrochement qui se fait là.
Oui.
Où on voit.
On voit. Mais voilà. Mais après, il y a tout le travail nécessaire pour réintégrer cette partie de nous-mêmes qui n'est pas, en fait, évacuée. Je disais aussi dans des... Voilà, et du coup, le cheminement post-traumatique demande de réintégrer cette part comme étant moi, parce que sinon, le chemin ne peut pas se faire, quoi, justement. Mais effectivement, il y a... Du coup, ce dégagement ne peut pas tenir dans l'épreuve du temps. Je peux pas, voilà. Je ne peux mettre à distance réellement, effectivement, ce qui engage et affecte mon corps. Voilà. Gabriel Marcel dit je ne puis dire que j'ai un corps, du moins à proprement parler, mais la mystérieuse relation qui m'unit à mon corps est à la racine de toutes mes possibilités d'avoir. C'est étonnant. C'est dans mon corps que je peux avoir. Voilà. Voilà. Cette mystérieuse relation, elle appelle et engage notre liberté. C'est pour ça qu'elle est une question politique. Là, il faut qu'on fasse une pause, non ?